Radio Scénique, Éric Dauter, bonjour. Vive le collectif, ça pourrait être le sous-titre de notre édition de ce jour, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Les deux événements que nous invitons aujourd'hui nous donnent en effet l'occasion de le célébrer, ce collectif. Alors prenons d'abord cette minute comité d'usine, présentée à partir du 11 juin au théâtre de l'Épée de Bois, à la Cartoucherie de Vincennes. Ce spectacle nous fait plonger dans les affres de 11 femmes, élues du personnel dans une usine de tissage. Elles doivent y répondre à une simple question soumise par la direction. Doit-on accepter de sacrifier 7 minutes de sa pause, moyennant l'affirmation et la garantie absolue du maintien des 200 emplois de l'usine? Nous recevons Marie-Laure Bodio et Valérie Decobert, deux des comédiennes de cette pièce, mise en scène par Olivier Mellor. Prenons ensuite le festival du Grand Palais d'été. Entre grands rassemblements festifs, pièces et chorégraphies, la programmation de cet événement, qui fête sa deuxième année, se veut rassembleur des talents multiples et nombreux, tout autant que de publics divers et variés. Nous sommes allés rencontrer Christophe Lemaire, le programmateur de ce festival, sous l'immense voûte du Grand Palais. Nous le retrouverons dans la deuxième partie de cette émission. Comme de coutume, c'est Pierre Demkov qui m'a aidé à préparer cette émission et qui en a signé la programmation musicale. Enrico Mastrogiovanni est au mixage. Il est assisté aujourd'hui d'Anatole Pain. Vous avez le programme, alors baissez les lumières, éteignez vos portables. Voici venir la 31e édition de Radio Scénique, votre magazine sur le spectacle vivant.
Radio Scénique par Éric Dauter. Le théâtre sur Aligre FM.
11 femmes pour 7 minutes. Nous sommes dans les locaux de Picard et Roche avec les membres du comité d'usine, l'équivalent de notre CSE. Elles sont 11 à représenter 200 femmes, ouvrières et employées de leur usine de filature. Blanche est l'une d'entre elles. Elle a été envoyée en délégation. On attend son retour d'une réunion marathon avec la direction de l'entreprise. Bilan de la rencontre, une proposition de la direction, à moins qu'il ne s'agisse d'un ultimatum. 7 minutes, comité d'usine, bande annonce.
Si la question, la seule, est de savoir si l'usine ferme, la réponse est non, l'usine ferme. Oh, ces messieurs garderaient tous les contrats.
C'est ça.
Ils ne toucheraient pas au salaire.
C'est ça.
À la seule condition qu'on renonce à
7 minutes de pause chaque jour, t'as bien lu.
Parce que ça, Blanche, tu l'oublies ou tu veux vraiment pas le voir?
Je vote pour. Parce que j'en ai rien à cirer de 7 minutes de moins devant le distributeur de boisons.
Non, ma chérie, c'est faux. À vous. Tu votes pour. Parce que comme nous, tu peux pas perdre tes 900 euros par mois.
Ça suffit.
S'il y avait eu une possibilité, une vraie possibilité de pas accepter, t'aurais vraiment voté contre. Au risque de tout faire foirer.
Je l'aurais fait, oui.
Marie-Laure Bodio et Valérie Decobert, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Eric.
Bonjour et merci de nous recevoir à Radio Ali.
Avec plaisir.
On est très contente.
Pour cette pièce que nous n'avons pas encore vue, mais que j'ai lue, vous jouez toutes les deux dans cette nouvelle version de 7 minutes. C'est une pièce signée d'un auteur fameux en Italie qui s'appelle Stefano Massini. C'est une pièce qui est mise en scène par Olivier Mellor. Alors, cette pendule qu'on entend, là, qu'on met sous nos voix, c'est celle du décompte avant la prise de décision pour ou contre la réduction d'une pause de 7 minutes. Elles ont une heure pour se décider. On parlait à l'instant du collectif, à quel point est-ce que cette pièce illustre le collectif? Parce qu'on a l'impression qu'il y a le collectif des femmes, qui est divisé en deux. Hein. Il y a les ouvrières et les employés, et il y a un collectif qu'on ne voit pas du tout, c'est celui des hommes, les cravates, comme elles les appellent.
Les costards-cravates.
Alors, Valérie Decobert.
Les costards-cravates, oui, alors ça c'est aussi... déjà la pièce est écrite ainsi, donc on respecte le texte de l'auteur, Stefano Massini, mais c'est aussi une volonté du metteur en scène. Il y a quand même quatre hommes sur le plateau qu'on ne voit pas, qui sont quatre musiciens.
Alors on aura l'occasion d'en parler de l'apparition de la musique, parce qu'elle n'est pas écrite, elle n'est pas écrite dans le texte, c'est un apport de votre collectif. Là aussi, on aura l'occasion de parler du collectif.
Mais les costards-cravates, on les imagine, c'est comme une chape de plomb, une épée Damoclès au-dessus de leur tête, et qui leur laisse cette question, j'ai un peu envie de dire, le règne du diviser pour mieux régner. Ils ne sont pas là, Blanche arrive, elle sort de la réunion, elles sont dans une liesse de joie très heureuse, parce que, évidemment, elles ont toutes elles sortent toutes de... C'est un peu du Ken Loach au théâtre, elles ont des vies dures. Il y en a une qui a fui l'Iran, une autre qui est toute jeune, qui voudrait créer sa famille. Enfin, elles ont toutes des difficultés à vivre, à joindre les deux bouts, elles ont un salaire de 900 euros par mois, donc je ne vous raconte pas. Et donc, elles sont tellement heureuses de s'accrocher à leur travail que cette question va évidemment jeter la brique dans la mer. Et elles qui avaient des liens pour certaines d'amitié, pour d'autres, elles se connaissent depuis des années.
Et pour d'autres, il y a mère et fille.
Il y a mère et fille. Qu'est-ce que cette question va susciter ? Est-ce que ça va scindre le groupe ? Est-ce que ça va soulever ? Et elles ont toutes leurs préoccupations. Et c'est vraiment elles qui doivent prendre la décision, puisqu'elles représentent le comité d'usine. Donc les patrons, entre guillemets, foutent la merde en posant cette question, mais elles sont livrées à elles-mêmes pour y répondre, elles n'ont qu'une heure.
Qu'est-ce qui a présidé au choix de cette pièce, Marie-Laure Baudieu ? Je vous demandais de parler au nom du metteur en scène. C'est la représentation des luttes ouvrières, les luttes ouvrières, et plus particulièrement des luttes ouvrières féminines qui fait qu'il a choisi ce texte.
En fait, l'histoire du choix de ce texte, elle est assez simple. En 2018, si je ne dis pas de bêtises, on avait monté l'établi de Robert Linhart. Je me trompe peut-être à peu près.
Quelle que soit l'année, oui.
Quelle que soit l'année. On avait rencontré Robert, on avait créé des liens d'amitié, on a créé des liens d'amitié avec lui et avec sa sœur aussi, Danielle, qui est sociologue.
Quand vous dites vous, c'est la compagnie du
berger. C'est la compagnie.
Votre compagnie, la compagnie à
laquelle... La compagnie du berger.
Voilà. Oui. Voilà. Alors Olivier Mellor, moi je suis comédienne sur le spectacle, Olivier Mellor est mon compagnon. Alors je parle en mon nom quand même, mais on se connaît donc très bien. Et du coup, voilà, pour revenir au choix de la pièce... En fait, Danielle Linhart, qui est également sociologue, c'est elle qui nous a conseillé cette pièce parce que il y a deux, trois ans, Olivier Mellor, il a eu envie de monter une pièce qui soit le pendant féminin de l'établi. Donc, on s'est mis à chercher des textes et on a appelé Danielle pour avoir des conseils. Et elle avait vu la création de cette pièce au français, à la Comédie Française, et elle avait adoré. Donc, elle nous a conseillé de le lire, on l'a lu, et puis voilà, on s'est dit...
Alors, Stefano Mancini,
c'est parfait.
C'est pas n'importe qui, puisqu'il est, directeur artistique du Piccolo Théâtre.
Il n'est plus là.
Il n'est plus. Ah, okay.
Non,
bon.
Il n'est plus.
Enfin, toujours est-il que
il
c'est...
Il est à Florence maintenant. Il est
à Florence.
Il dirige...
C'est un des auteurs reconnus, traduits, montés dans le monde entier.
Ah, oui.
Un auteur italien, italien fameux. Donc, c'est donc, vous lisez à l'instant, Marie-Laure Baudieu, ça vient d'une espèce de continuité entre deux pièces sur les luttes ouvrières.
Oui, tout à fait. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est ça. On avait envie... Et puis, dans l'établi, c'est ce que je n'ai pas dit, c'est que dans l'établi, il n'y a que des hommes. C'est une usine Citroën de fabrication de voitures. Et là, on cherchait... il se trouve que c'est une usine de textile et c'est que des femmes, en tout cas dans la pièce.
Alors, revenons sur ces femmes. On ne va pas toutes les détailler. Il y en a 11, dont les âges vont de 22 à 61 ans.
Oui.
Valérie Decobert, vous incarnez Ariel.
Oui.
Ariel, elle a 37 ans.
Oui.
Elle est ouvrière au cardage.
Oui.
Et pour Scandie l'auteur, le boulot, c'est elle. Son boulot, c'est tout.
Mais sa vie, c'est son travail. Et son travail, c'est sa vie. Et on ne sait pas trop de choses. Il y a parmi les personnages, il y en a où on a quand même des... Elle se raconte, elle se dévoile. Mais Ariel fait partie de ce... C'est un personnage qui est vraiment... Qui a créé, qui a construit toute sa vie autour de l'usine, autour de son travail. Et il n'y a rien à côté. On ne sait pas si elle est mariée, on ne sait pas si elle a un enfant, on ne sait rien d'elle.
Alors résultat, lorsqu'il s'agit de décider pour ou contre cette mesure où elle devrait sacrifier cette petite minute de sa pause... Elle s'adresse de manière assez brutale à Blanche, qui est finalement la porteuse de mauvaises nouvelles. Elle lui dit toi, t'es de celles qui se posent des questions à chaque virage, pas vrai? Tu sais comment ça s'appelle, ce petit jeu? Ça s'appelle se faire du mal, vivre comme des bêtes. C'est pas mon truc.
Ben non, parce qu'elle est dans un instinct de survie. Ariel, tout le long, elle est sur un fil. Elle est vraiment dans un instinct de survie. Elle est en même temps très attachante. Et il y a de la dualité, comme dans chaque personnage. Et ce qu'a montré Olivier Mellor aussi, ce qui est très, très beau, c'est que pendant cette heure où elles doivent se décider, peut-être s'écharper, se battre, mais au sens métaphorique du terme, il y a les rapports humains qui restent là. C'est-à-dire qu'on pense qu'elles se... pour quelques-unes d'entre elles, peut-être qu'elles ne se supportent pas, peut-être que moi je vais pousser Blanche dans ses moindres retranchements parce que je ne veux pas céder, parce que j'ai mes convictions, j'ai mes croyances, et puis parce que sinon mon monde va s'écrouler. Et à un moment donné, il y a quelques secondes où je lâche prise, où je pose ma tête sur son épaule, et d'un seul coup, c'est comme s'il y avait deux boxeurs. Et,
très beau moment, magnifique. Hein.
Et d'un seul coup, c'est temps mort, pause, et on reprend notre respiration, et je pose ma tête sur et c'est très surprenant, parce que c'est vrai que je la pousse vraiment contre le mur, je la pousse dans ses moindres retranchements, et à un moment donné, je cède. Donc oui, ça montre aussi tout ça, les 7 minutes. C'est, elles s'accrochent au mur, elles font ce qu'elles peuvent, elles trébuchent, elles se cognent, mais elles aiment leur travail, elles ne veulent pas le perdre, et c'est terrible, parce que de priver ces ouvrières de 7 minutes sur un temps de déjeuner qui n'en dure que 15, on est quand même dans une perversité. Et c'est quelque chose qui, aussi, qui reflète la réalité.
Valérie de Cobert, à votre gestuelle et dans vos yeux, on voit toute la conviction du personnage, on y est presque. Marie-Laure Baudieu, vous êtes Odette, 47 ans, ouvrière aussi au quart d'âge. Vous êtes depuis 30 ans chez Picard et Roche.
Oui, et... je suis une des plus anciennes avec Blanche.
Voilà,
on s'est rencontrés il y a 30 ans. Ouais.
Et votre fille de 26 ans est également employée dans
c'est
la société.
Ça, Sabine.
Vous faites plutôt confiance à Blanche. Alors, est-ce que c'est parce que Blanche détient la vérité? Parce que Blanche, elle dit plutôt...
Mais j'en sais rien si elle détient... Enfin, je vais dire « je », mais c'est Odette. Hein, voilà.
Oui, oui, oui.
Je ne sais pas si elle détient la vérité. Je...
Mais Blanche, elle dit quoi par rapport à ce sacrifice de ces 7 minutes?
Blanche, elle dit que ce que vient de dire Valérie, c'est-à-dire c'est de la perversité.
Donc, il faut dire non.
Alors, est-ce que je spoil quelque chose en disant
en fait, c'est intéressant ce que vous dites, parce que effectivement, est-ce qu'il faut dire non? Et il y en a qui posent cette même question.
C'est presque un
running gag. C'est un leitmotiv. C'est est-ce qu'il faut dire non?
Mais
parce que refuser
Blanche...
7 minutes, c'est renoncer à notre salaire.
Alors,
et il y en a, elles vont perdre leur vie.
Mais
ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de reconstituer le débat qui a lieu sur la pièce.
Mais ce que dit Blanche, c'est que pourquoi est-ce qu'on dirait oui aussi facilement? Pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas? Parce qu'en fait, la pièce, c'est ça, ça parle pas... On appelle ça un thriller social parce qu'il y a un certain suspense. Est-ce que finalement elles vont dire oui ou est-ce qu'elles vont dire non? Mais ça, c'est pour que les spectateurs soient tenus en haleine. Mais en vrai, le vrai sujet de la pièce, c'est... comment on discute ensemble? C'est la démocratie, en fait. C'est pour ça que quand on nous dit « Ouais, c'est un spectacle gauchiste, nanana... » Bon, évidemment, alors, attention, ça se passe dans une usine.
Ça se passe dans une usine, c'est le monde ouvrier, bien sûr.
Ok, mais et puis, moi, ça ne me dérange pas du tout qu'on dise que c'est un spectacle gauchiste. Mais ce que je veux dire, c'est que
il y a
toutes sortes de spectateurs qui sont venus, des jeunes, des vieux, des...
c'est un spectacle que vous tournez déjà depuis...
Qu'on a créé à Amiens, là où on est en résidence, au Centre culturel Jacques Tati, qui est un théâtre de quartier. Mais bon, dans ce théâtre-là, il y a un public très, très varié, quoi. Et vraiment, ce qui en est ressorti des retours des spectateurs, c'est qu'ils se posent la question... Comment moi j'aurais réagi?
Qu'est-ce que j'aurais
à qui
fait
je me serais identifiée? Alors c'est hyper bien écrit parce que, comme vous disiez, il y a 11 personnages qui sont toutes très différentes,
qui ont
des âges différents,
parcours différents. Et comme le dit Blanche aussi, 7 minutes, c'est ce que 7 minutes. On le dit, 7 minutes, c'est rien. Je m'en fous d'avoir 7 minutes en moins pendant ma pause pour boire ma bière. Ça m'est égal. Si c'est mon salaire et ma vie qui remet en cause de ça, c'est quoi 7 minutes? Mais comme le dit Blanche, 7 minutes fois 200 ouvrières.
Fois 200 jours de travail.
C'est 600 heures de travail qu'on offre
au
Costard Cravate par mois. 600 heures de travail, c'est aussi ça.
Est-ce que...
Et la démocratie, c'est si nous, on cède, peut-être que les autres usines à côté vont aussi céder.
On part du tout petit et on va vers le mondial, en fait.
Ouais. Voilà.
Alors, sur Radio Scénic, nous parlons de 7 minutes comité d'usine qui est sur scène au Théâtre de la Tempête à la Cartoucherie de Vincennes à partir du 11 juin.
Time goes by so slowly, 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 slowly, time goes by. So 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 slowly.
Radio Scénique par Éric Dauter. Le théâtre sur Aligre FM.
Radio Scénique a décidé de s'intéresser au collectif et notamment celui qui est décrit dans 7 minutes comité d'usine. Cette pièce de Stefano Massini, elle date de 2013 et elle s'inspire d'un fait d'actualité, la lutte des ouvrières de Lejabi, du nom de cette entreprise de sous-vêtements féminins. Retour sur un fait d'actualité du JT Rhône-Alpes, 23 décembre 2010.
L'entreprise a été créée ici à Bellegarde-Valserine dans l'Ain dans les années 30. Les établissements Lejabi seront considérés pendant longtemps comme le fleuron de l'industrie textile. Mais après leur vente en 1996 à l'américain Warnaco, puis en 2008 à l'autrichien Palmers, le groupe va connaître des jours bien sombres. L'entreprise décide de délocaliser sa production au Maghreb et en Asie. La direction du groupe envisage alors de fermer 3 sites, ceux de Bellegarde, Bourg dans l'Ain et Dutheil en Ardèche. 197 postes sont menacés. Les salariés vont se battre et enchaîner les actions comme ici à la mairie Dutheil, où elles interpellent le président du groupe. Les actions se multiplient le 12 avril devant le siège à Rieux près de Lyon, pendant le comité central d'entreprise. Les Lejabi se retrouvent pour dire non au plan de restructuration. Combat héroïque, celui du désespoir. Septembre dernier, une cinquantaine de salariés occupent le siège de l'entreprise.
Pour 118, contre 26, abstention 3.
Au bout de 2 semaines, elle lève le camp après avoir obtenu notamment 15 000 euros d'indemnité supralégale. Le 19 octobre, le tribunal de grande instance annule le plan social, mais la direction maintient sa volonté de fermer les usines.
Alors, vous avez entendu Valérie Decobert et Marie-Laure Bozio, vous incarnez donc Ariel et Odette, 2 des 11 représentantes du personnel de l'entreprise Picard et Roche, qui se battent pour défendre leurs droits. On trouve une similarité, hein, ces ouvrières, essentiellement des ouvrières, qui dans ce qu'on vient d'entendre, ce reportage sur Lejabi, qui travaillaient dans la confection, et puis on leur a demandé quelques concessions, puisque ça finit par une délocalisation. Elles en parlent aussi pendant la pièce. Il y en a une qui a vécu cette expérience. J'avoue que le prénom m'échappe pour le moment. Il y en a une qui a vécu cette expérience.
C'est Lorraine
qui a vécu l'expérience de la délocalisation.
Oui, elle a déjà reçu une lettre. Elle le dit dans le début de la pièce. Et dans cette première lettre qu'elle avait reçue, c'était... elles étaient licenciées, effectivement.
Alors, vous parlez de lettres et je vais me permettre de rebondir là-dessus. Chacune reçoit une lettre avec une jolie lettre de la direction avec son prénom dessus en disant « voilà ce qu'on vous propose. Renoncez à 7 minutes et on conservera les emplois. »
C'est une demande, oui.
Oui.
Une demande très, très bien tournée, très polie. On pourrait penser qu'elle pourrait dire, elle pourrait répondre oui ou non sans aucune conséquence.
C'est un cadeau empoisonné, avec une jolie lettre, son petit prénom, mais c'est assez froid quand on y pense. C'est méthodique, c'est anticipé et c'est surtout les confronter entre elles et à elles-mêmes. Donc oui, c'est un peu le règne du divisé pour mieux régner.
Pour rebondir sur ce que vous dites, Valérie Decobert, avant cette émission, je vous ai dit... alors, je n'ai pas vu la pièce, hein, comme je l'ai dit en préambule, puisqu'elle ne débutera qu'à partir du 11 juin, mais j'ai lu le texte et de cette lecture du texte, vous n'étiez pas d'accord avec moi. Moi, j'ai l'impression que le collectif se défait sous le doute, finalement, sous le doute, la peur. Marie-Laure Bodio.
Mais en fait, je pense que c'est la magie du théâtre. C'est qu'on a le texte. Et puis, même si nous, on a un metteur en scène qui est génial et qui, oui. Dans tous les spectacles qu'il crée, il va dans le sens du texte. Là, dernièrement, on a... Enfin, le dernier spectacle, c'était Ruy Blas. Enfin, voilà, il est très éclectique dans ses choix, on va dire. Mais à chaque fois, il va dans le sens de l'auteur. Et le fait d'avoir ces personnes, ces comédiennes sur scène portant ce texte, je pense que ça donne beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de... j'arrive pas à trouver vraiment le mot,
c'est un peu comme s'il y avait le paraverbal et le non-verbal, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a le texte et il y a ce qu'on joue, il y a l'image.
On sait que le théâtre c'est du texte, mais c'est aussi beaucoup des comédiennes et c'est ça n'existe qu'à partir du moment où vous vous en êtes emparé. Justement, vous évoquiez le travail de la compagnie du Berger, cette compagnie dans laquelle vous, Valérie de Cobert, vous êtes nouvellement arrivée, et Marie-Laure Boggio, dans laquelle vous jouez
depuis deux spectacles. Moi j'ai vu l'établi et quand j'ai vu l'établi en 2000.
Je crois que c'est 2018.
2018, j'ai eu un choc. C'est-à-dire qu'il fait partie dans mon top thème de 10 spectacles de ma vie, et je suis quand même comédienne depuis 30 ans, il est dans la liste des 10 plus beaux. J'ai eu un choc et je me suis dit, je veux travailler avec cette compagnie, avec Olivier Mellor. Et j'ai fait L'Héritage il y a 2 ans. C'est un texte de Yacoub Abdelatif. Et c'est à l'issue de L'Héritage qu'Olivier Mellor m'a proposé de rejoindre la compagnie du Berger pour 7 minutes, évidemment.
Alors, j'ai dit oui. Marie-Laure Boggio, votre privilège d'ancienneté fait que je vais vous adresser cette question. À quoi ça ressemble un collectif? Parce que là aussi, on parle du collectif. Finalement, tout se recoupe entre le collectif de ces ouvrières et le collectif de cette équipe qui monte alternativement des classiques et des textes modernes en prise sur des préoccupations de la société. C'est quoi ce collectif, la Compagnie du Berger?
Oh là là, c'est,
allez, en une,
c'est
minute,
une vaste question, ouais, c'est ça. La Compagnie du Berger, d'abord, c'est une compagnie qui est ancienne maintenant, qui a plus de 30 ans.
40 pièces, c'est ça.
40 pièces au compteur.
41.
41, bon. Non, mais je vais me planter sur les dates, puis Olivier, il doit écouter, là, il va me dire, oh là là là.
Alors, on ne va pas s'attacher aux dates.
Bon, voilà, je suis très nulle sur les chiffres. En tout cas, c'est... c'est une équipe de personnes qui travaillent un peu, on va dire, comme dans un cirque. C'est-à-dire qu'on est tous polyvalents. Alors, à des degrés... Enfin, voilà, on a tous aussi des spécialités. Moi, par exemple, je ne fais pas de technique lumière ou son. Mais par exemple, pour ne citer que lui, Olivier, maintenant, il fait la mise en scène. Il joue, il est aussi musicien.
Il
est scénographe, il fait... Enfin bon. Et il y a aussi Toscano. François, alors là je cite que les mecs, mais
il y a Cailleux, Toscano, le compositeur musical,
et Louis,
le saxophoniste.
Alors voilà, justement, vous citez Valérie de Cobert, un musicien, parce qu'il y a un apport de musique qui n'est pas écrit dans le texte. Je vous propose d'écouter un petit extrait qui fait introduire la musique dans ce 7 minutes. 7 minutes, voilà, 7 minutes atelier. Voilà,
Comité d'usine.
Voilà. On écoute un extrait.
Ils t'ont donné que cette lettre pour nous.
Que cette lettre.
Rien d'autre.
Alors c'est ça la condition pour pas fermer.
T'as bien lu. On dirait même pas une condition.
C'est une demande.
Ils demandent de faire un pas vers
nous. Nous, vers eux.
C'est ce qu'ils demandent, oui.
Comment ça s'explique?
Ça s'explique pas.
Ah, j'aime pas ça. Ah, j'ai envie de rire. Ah, pardon. Ah, je sais pas serrer où. Où aller?
Avant Picard et Roche, je travaillais dans une autre usine. C'est à Marseille. La firme Leclerc, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle a changé de main, elle aussi. Alors, on nous a proposé un plan pour pas qu'elle ferme. Transfert. On a raboté tous les salaires de 10% et on a foutu dehors les derniers recrues. Ah, j'en étais. On nous a écrit une lettre. Je l'ai reçue. Je me souviens encore du logo sur papier en tête, les deux haies, le ciel, le cribouillis de la tirature, tout ça c'est resté gravé là, pas à part jusque quand. Et là, ce coup-ci, je reçois cette lettre.
Valérie de Cobert, Marie-Laure Boggio, on parle donc de 7 minutes comité d'usine. C'est à quel moment de la pièce, ce qu'on vient d'entendre?
Elles viennent de découvrir l'ampleur de la question et ce à quoi elles vont être confrontées. Elles viennent d'ouvrir le courrier, la lettre.
Elles ouvrent le courrier.
C'est les premières réactions. Donc c'est au début du spectacle, c'est au bout de 20 minutes.
Et elles apprennent qu'il faudrait qu'elles sacrifient 7 minutes de leur pause. On a entendu une intervention d'une flûte. Quel est l'apport de la musique dans ce spectacle?
Elle est aussi importante que la mise en scène. Je dirais que Toscano, c'est l'alter ego d'Olivier Mellor. Toscano, c'est le compositeur musical, le génial compositeur musical qui collabore avec Olivier
de tous les spectacles. Et moi, je vous invite à aller sur le site de la compagnie parce qu'il y a beaucoup de musiques qui sont en ligne et c'est vraiment magnifique. C'est un compositeur.
Et il travaille vraiment. Moi, j'ai envie de parler du mot organique. Il travaille avec nous. nous. Ils étaient sur le plateau avec nous. Alors évidemment, il avait fait toute sa composition musicale, mais il respire sa musique au rythme du cœur de ces 11, ce corps de ces 11 femmes. Et on ne les voit pas, mais il y a des moments sur scène où on joue et lui, il met un rythme, c'est le temps qui passe. Et il y a aussi un thriller, c'est comme un thriller social, donc il y a une ambiance, il y a aussi une composition, un habillage sonore. Et il le fait au rythme de nous sur le plateau en live. Donc,
Marie-Laure Baudio, je reprends ce que vient de dire Valérie Cobert. Elle a parlé de corps et de cœur, mais vous chantez aussi sur scène.
Oui, on chante une chanson. C'est
très belle. On regarde la surprise.
Bah oui, parce que c'est trop beau, ça fout les poils, nous disent les gens. Oui.
Alors c'est quoi de Marie-Laure Baudio et Valérie Decobert, c'est quoi pour deux comédiennes de participer à une aventure qui réunit autant de monde sur un plateau? Parce que je vous le cache pas, ici on est un peu désespéré par le nombre de seuls en scène expliquant à quel point maman a été méchante et à quel point il a été difficile d'affirmer ce qu'on était. Et
apprendre, ça fait plaisir d'entendre ça.
apprendre qu'une pièce met 11 personnes sur scène et surtout 11 comédiennes, on était un peu, enfin j'étais un peu renversé. Alors,
oui, mais je comprends parce que c'est un peu de la folie en fait, par les temps qui courent, de créer un spectacle pareil avec 15 personnes. Évidemment que...
Donc 11 femmes plus 4 musiciens, oui. Les seuls hommes sur le plateau.
Oui. Et je trouve qu'il y a une étrangeté d'un seul coup de découvrir un plateau avec 11 femmes sur scène.
C'est 11 hyper femmes. Rare, oui. Ouais.
Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? On voit déjà, à deux, vous êtes très animés. Alors, comment est-ce que ça
mais
fonctionne?
Mais à 11, on est hyper animés aussi. Et oui, il faut un peu mettre de l'ordre
dans
tout ça.
C'est une mécanique.
Et on en parlait hier soir avec Valérie. On se disait, c'est incroyable comment ça s'est fait. C'est-à-dire que dans le travail avec Olivier, on ne fait pas tellement de travail à la... Enfin, je veux dire, par l'inverse, quoi. Je veux dire, on ne fait pas de travail à la table, on ne fait pas des exercices, des machins, des trucs pour se mettre ensemble et tout. On y va, on va franco dans le texte.
Et il nous a jeté dans le vide. Hein.
Ouais,
moi, c'est la première fois, ça fait 30 ans que je fais ce métier, et j'en parlais hier avec Marie-Laure, où je disais... C'est la...
Alors, Marie-Laure
Marie-Laure Baudio, oui, ma partenaire de jeu.
Voilà, qui est en face de vous.
C'est la première fois... Évidemment que... Mais c'est la première fois que j'étais à ce point perdue. Et j'ai jamais eu autant de difficultés parce qu'on a été quand même, il nous a jeté dans le vide et très vite fallait être, il nous a mis au pied du mur, mais un peu comme ce que vivent les ouvrières au pied du mur, faut répondre à une question. Et comment occuper l'espace scénique quand on est 11? Pas faire des, enfin voilà, c'est comme des poissons.
Et ben justement, pas faire le banc de poissons.
Pas faire le banc de poissons, c'est
de pas se suivre tout le temps.
C'est choral, c'est des phrases qui fusent, c'est presque, comment dire, c'est un instrument de percussion. Et voilà, il y a des rythmes, il y a la colère qui monte, il y a les émotions. D'un seul coup, et c'est le chef d'orchestre.
Parlons 10 secondes de l'écriture, de l'écriture de Stefano Massini. Ce sont des phrases courtes, sauf il y a un certain nombre d'explications qui sont de la part de Blanche, qui est la porte-parole et la porte-parole la mauvaise nouvelle. À part elle, il y a assez peu de discours introspectifs.
Elles ont un peu, chacune, un petit moment. Mais c'est assez bref. Mais effectivement, c'est Blanche qui porte vraiment la parole,
c'est
parce qu'à chaque fois, elle les remet dans la situation, elle les remet...
Interprétée par la magnifique Karine Dodewaarder, voilà, qui est quand même sublime. Et oui, dans le groupe, ce serait un peu notre chef d'orchestre. Et Ariel va la confronter, d'autres Lorraine, on est toutes, il y a des oui, il y a des non, mais c'est la meneuse. En fait, entre guillemets, la tête pensante qui va ramener le débat. Qui va ramener, qui va poser les questions qui fâchent.
Alors on voit, à vous entendre avec le feu qui vous anime dans cette simple interview, Marie-Laure Baudio et Valérie Decobert, qui attend le spectateur qui souhaiterait venir voir 7 minutes comité d'usine. Je rappelle que c'est à partir du 11 juin et c'est au Théâtre de la Tempête.
L'Épée de Bois. C'est en face.
À la carte, c'est Christine Vincennes. Merci à toutes les deux.
Merci.
Merci. We'll be right back.
FM 93.1.
Et sur Allegre FM, vous êtes à l'écoute de Radio Scénique, votre magazine de théâtre. Nous déclinons aujourd'hui la notion de collectif dans le spectacle. Et le collectif, c'est justement l'un des credos du jeune festival Grand Palais d'été qui fête sa deuxième édition. Nous avons rencontré son programmateur sous l'immensité de sa coupole. La journée était belle et la lumière traversait la verrière venant lécher la scène installée pile au centre de la nef. Christophe Lemaire, bonjour.
Bonjour.
Où est-on ?
Eh bien, on est dans la nef du Grand Palais, où on prépare la suite du Grand Palais d'été.
Alors, le Grand Palais d'été, c'est sa deuxième édition. Vous en êtes le programmateur. On va revenir un peu sur la programmation et sur la philosophie de cette programmation. Mais la philosophie, elle vous est imposée par le lieu. 240 mètres de longueur, 45 de hauteur. Qu'est-ce qu'on fait avec un monument pareil, une nef pareille ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas en faire abstraction. On n'est pas dans un théâtre dans lequel, finalement, l'espace de la scène elle-même va s'effacer pour la scénographie ou pour l'esthétique du spectacle. Ici, il faut faire avec, il faut composer avec. Et on peut composer avec parce que la nef, on ne l'oublie jamais. Elle est toujours omniprésente derrière les spectacles. Et elle devient même un partie prenante de l'esthétique du spectacle pour le spectateur comme pour les artistes. Donc, il faut composer avec et on peut le faire de plein de façons différentes. Avec insolence, avec humilité, avec amour. Mais ce qui est étonnant quand même dans ce lieu, c'est qu'au final, c'est un lieu effectivement qui a des dimensions immenses, majestueuses, etc. Mais de par sa rondeur, de par la rondeur de la verrière, c'est un lieu qui est très hospitalier, dont on sent une forme de bienveillance. C'est pas un lieu contre lequel il faut se bagarrer, en fait. C'est un lieu qu'il faut épouser, qu'il faut embrasser, dans lequel il faut s'adapter.
Pourtant, ce lieu, il n'a rien de ce qu'on demande à un théâtre. Un théâtre, c'est sombre. Là, vous avez une verrière, il y a un cadre de scène. Là, le cadre de scène n'existe pas. On se perd dans les 45 mètres de hauteur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?
On s'adapte. Et on demande aussi aux artistes, d'ailleurs, de s'adapter à l'espace du Grand Palais. Et ça permet notamment... C'est pour ça qu'on a choisi de commencer la représentation à 21h. C'est-à-dire, quand on commence la représentation, il est 21h. Il fait jour et on va accompagner les spectateurs avec le public jusqu'à la tombée de la nuit, puisque les spectacles durant à peu près 1h15, on commence en plein jour et on finit dans la nuit. Donc tous ensemble, on passe dans la grande nuit du spectacle.
Alors remettons ce festival dans le contexte. On en est à la deuxième édition. 2024, à force d'injonctions présidentielles et de nécessité mondiale, on réouvre le Grand Palais pour accueillir un certain nombre d'épreuves des Jeux Olympiques, dont l'escrime. Et 2025, c'est déjà la première édition du festival Grand Palais d'été.
Tout à fait, à l'initiative de Didier Fusillé. Les peintures étaient encore à peine sèches, les travaux n'étaient pas finis partout. Et il a fallu inventer en fait complètement le dispositif que vous voyez là. Comment est-ce qu'on installe des gradins dans la nef ? Comment est-ce qu'on ferme à certains espaces pour quand même garder une relative intimité, si tant est que ce soit possible dans un tel lieu, pour les spectacles ? Comment on installe la technique ? Comment on installe l'accueil public ? Il a fallu tout inventer l'année dernière en fait. Et on profite cette année et on améliore encore tout ce qui a pu être inventé en termes d'espace scénique l'année dernière.
Pour décrire aux auditeurs qui entendent le bruit de cette fourmilière en train de préparer les représentations de ce soir, au milieu de la nef, pile sous la coupole, il y a la scène. Et face à la scène, il y a toute une rangée de gradins. Mais il y a tout un espace là dans lequel on se trouve qui est une sorte de no man's land. C'est la limitation, on ne peut pas occuper tout l'espace.
En fait, c'est parce qu'on a choisi de faire des soirées en plusieurs chapitres. Et donc, la première partie de chacune des soirées, a fortiori des samedis soirs, se passe devant, dans une moitié, on va dire, de la nef, avec un gradin de 1000 places, auquel on peut rajouter des tatamis pour mettre les spectateurs au plus proche de la scène. Le spectacle se joue là. Fin du spectacle, on passe dans la deuxième moitié de la nef, ici, dans l'espace que vous voyez voyez derrière vous. Et on installe un DJ pour des soirées clubbing festives dans lesquelles cette fois on peut accueillir jusqu'à 3500 personnes en mode debout et qui vont durer jusqu'au bout de la nuit.
Alors justement, vous allez pouvoir m'éclairer parce que j'ai du mal à trouver une ligne directrice dans votre programmation entre des représentations circassiennes, un tout petit peu de théâtre, on va en reparler tout à l'heure, et beaucoup de fêtes, hein, notamment ce que vous appelez les afternefs. Hein. C'est quoi l'idée de Paris est une fête à nouveau ?
L'idée Paris est une fête, l'idée le Grand Palais célèbre aussi la réunion de tous les arts plastiques évidemment, mais aussi la danse, le théâtre, le clubbing, la culture du drag queen par exemple, le battle de walking. Donc c'est une célébration de l'ensemble des arts dans la nef du Grand Palais. Après, la philosophie évidemment, c'est que le lieu impose des rassemblements populaires, impose du grand public, impose des formes plus ou moins fédératrices, même si on peut, évidemment, et on se prive pas de l'être, être un peu aventureux. Mais donc forcément, vu l'espace, c'est, je dirais, en termes de programmation, de ligne artistique, une sorte de célébration non seulement de tous les arts, mais aussi du collectif, de l'être ensemble. Dans les spectacles, il y a en moyenne entre 20 et 100 interprètes, chaque fois sur chacun des spectacles. Et tous les spectacles racontent à leur façon qu'est-ce que c'est d'être ensemble, qu'est-ce que c'est de faire groupe, qu'est-ce que c'est de faire collectif. Est-ce qu'ensemble, on réinvente un monde? Est-ce qu'ensemble, on reconstruit un monde? Est-ce qu'ensemble, on célèbre le monde qui existe? Et de toutes les manières, en fait, d'une façon ou d'une autre, l'ensemble des projets du Grand Palais d'été répondent ou sont des formes de réponse à cette question. Et tout ça est évidemment festif et partagé. Et même quand on fait la fête avec 3500 personnes dans un monument historique, c'est une façon de partager aussi, de partager généreusement ce lieu de façon festive avec le plus grand nombre. Et on attend et on espère d'ailleurs que le public qui sera présent sera de toutes les générations, de toutes les cultures, de toutes les classes sociales, etc. Et pourra s'emparer aussi à son tour, puisque ça leur appartient d'une certaine façon, la nef du Grand Palais.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Christophe Lemaire, avec vous qui êtes programmateur du Grand Palais d'été, on évoque cette programmation qui va jusqu'au 18 juillet, je crois.
Ça finit le 18 juillet, absolument. Et on finit en fanfare avec Maud Le Pladec et Eddy de Préto.
Et vous avez parlé de recomposition des spectacles. Est-ce qu'il y a vraiment des spectacles qui ont été écrits ou remodelés pour l'espace ?
Quasiment tous. Quasiment tous. Par exemple, si vous prenez le spectacle Deadlift de Nassim Badag, et il a été créé pour 4 danseurs, il en fait une version spécifiquement pour le Grand Palais avec 8 danseurs. Ou Maud Le Pladec, l'ensemble de ses spectacles et du programme qui a été créé avec elle, qui s'appelle Crescendo, part d'une pièce qu'elle avait créée d'ailleurs, une œuvre qu'elle avait créée pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, de 50 danseurs. Et ensuite, on a imaginé avec elle un programme où il y a de moins en moins de danseurs sur le plateau. On finit à 3 danseurs en partant de 50. Et en même temps, l'énergie est de plus en plus forte et de plus en plus puissante. Donc l'ensemble des pièces, en fait, de toute façon, ne serait-ce que par les données techniques, par ce qu'on a dit, le fait qu'il fasse jour, etc., il faut réinventer toutes les pièces. Le programme du Ballet du Rhin, Sharon Eyal, Léo Lérus, qui se joue pour le coup énormément quand il joue en salle de théâtre sur la lumière, il y a très peu de lumière, on découvre les corps les uns après les autres, etc. Ici, ils seront visibles dès la première minute, dès le premier instant. Donc ça réinterroge complètement la pièce et le regard que peuvent porter non seulement les spectateurs, mais les artistes eux-mêmes sur leur pièce, et c'est ce qui est intéressant.
Par rapport à l'immensité de ce lieu, vous avez quand même, nécessité faisant loi, vous avez divisé cette grande nef en plusieurs espaces. Il y a des rideaux qui, j'imagine, évitent la dispersion du son et permettent de délimiter des espaces. Décrivez-nous un petit peu. Donc on est au centre, sous la coupole, c'est là qu'il y a l'espace de jeu, qu'il y aura l'espace pour les after-nefs. Et de part et d'autre, il y a deux espaces.
Alors de part et d'autre, il y a deux espaces. Là, on est dans ce qu'on appelle la nef centrale, c'est-à-dire qui relie le balcon de l'horloge au balcon d'honneur, qui nous sert de fond de scène, en fait, avec ses magnifiques formes. On se croirait dans le Nautilus de Jules Verne. Et de chaque côté, effectivement, il y a des espaces, mais qui seront en fait des espaces utilisés pour d'autres fonctions. Par exemple, dans ce qu'on appelle la nef nord, qui est ici à votre droite, il y a une grande installation de Laure Provost, donc une grande installation d'art plastique. Et dans la nef droite, il y a une partie des loges. Et tous les samedis matins, on proposera au public de venir faire des ateliers de danse gratuits. On pourra accueillir jusqu'à 400 personnes qui seront animées par les chorégraphes invités du Grand Palais d'été. Donc en fait, c'est aussi à cet endroit-là une cohabitation ou une fraternité des différents arts. On aura juste à côté de nous des visiteurs qui toute la journée viendront voir l'œuvre plastique de Laure Provost, qui le soir pourront venir voir des spectacles, le samedi soir faire la fête et le samedi matin danser tous ensemble dans la nef sud.
Alors, Grand Palais d'été, Paris l'été, est-ce qu'il y a une volonté de dire aux Parisiens, attention, la plupart des programmations sont parties à Avignon, mais vous pouvez encore aller voir du théâtre, aller voir du spectacle ?
Bien sûr, il n'y a pas que les grands festivals de province. Pendant l'été, Paris est plein de Parisiens, de touristes, de visiteurs qui restent là et qui ont le droit eux aussi à ce moment festif et festivalier. D'ailleurs, vous avez cité Paris l'été, on va faire l'ouverture du festival Paris l'été avec le Battle Walking de Josefa Madouki. Et c'est d'une certaine façon aussi, en bonne intelligence et en fraternité, j'ai envie de dire, une façon de passer le relais au festival Paris l'été, qui commence eux le 11 juillet, nous on s'arrête le 18 et on a une semaine commune et après on leur passe le relais.
Dans Radio Scénique, nous on est une émission de théâtre et vous avez une pièce de théâtre dans la programmation, vous pouvez nous en parler, nous en dire un petit peu plus?
Bien sûr, c'est la pièce de Thiago Rodriguez qui s'appelle No Yogurt for the Dead, qu'il a créée au Went et Ghent, donc c'est une pièce en langue étrangère, en français, en portugais et en flamand, qui n'a jamais été présentée à Paris, ni même en France, et qui ne le sera pas non plus au Festival d'Avignon, bien que Thiago Rodriguez en soit le directeur, donc c'est une sorte d'avant-première ou d'exclusivité ici. C'est une très belle pièce, très intimiste, et en même temps c'est une sorte de pari. On disait tout à l'heure qu'il faut arriver à jouer avec l'espace, avec sa grandeur. Comment est-ce qu'on arrive, on y travaille évidemment et on sait qu'on a toutes les solutions pour ça, à rendre une pièce intimiste dans cet espace du Grand Palais. Et comme c'est une pièce sur les fantômes, sur la mémoire, en particulier sur la mémoire de son père, l'âme de ce lieu devrait pouvoir y contribuer. Après, c'est vrai que la place du théâtre dans un endroit comme celui-ci, notamment de l'acoustique du théâtre, comment est-ce qu'on entend les acteurs, etc., est un questionnement. Mais on y réfléchit, et on y réfléchit en particulier pour les éditions prochaines, puisque comme on l'a dit, il y a plein de festivals partout en Europe qui font du théâtre de plein air, donc dans des grands espaces.
C'est intéressant parce que vous dites de plein air, on n'est pas en plein air ici.
On a les avantages sans certains des inconvénients du plein air, c'est-à-dire on est en plein air parce qu'on voit le ciel à travers la verrière, mais en même temps on est un peu à l'abri du mistral, du vent, de la pluie, des orages, enfin normalement on est à l'abri des orages aussi.
Oui, parce que, petite anecdote, et vous y faites allusion, c'est que l'année dernière, le premier festival de ce Grand Palais d'été a été envahi par la pluie qui descendait des escaliers, c'était le déluge.
Ah ben, il y a eu un déluge inattendu et hors norme et hors proportion. Et effectivement, ça a testé un peu les limites de la verrière. Mais avant ça, en fait, il y avait eu un phénomène de grosse chaleur. Donc, les joints de la verrière et des pièces de verre avaient joué un peu entre eux, ce qui avait créé une ouverture, une sorte de fuite, en fait. mais depuis, ça a permis de le régler. Normalement, ce problème ne devrait pas se reproduire cette année. Ça sert à ça aussi, les premières éditions. C'est des sortes de crash test, enfin, qu'on espère le plus heureux possible. Mais...
Alors, on va rassurer les spectateurs qui ont l'intention de venir au Grand Palais d'été. Ils étaient 540 000 l'année dernière. Qu'est-ce qui les attire en dehors de la fascination pour ce lieu qui est devenu encore plus iconique depuis les JO?
Le Grand Palais, effectivement, est très attractif. Et puis, on voit bien que tous les gens ont envie de vivre la nef, de découvrir la nef, de vivre des expériences artistiques dans la nef. Et la rencontre entre cet espace inouï et une programmation pluridisciplinaire, ouverte, joyeuse et inventive, je pense que ça relie un peu tous les éléments de moments artistiques qu'on pourrait dire assez inoubliable. Je pense que quand on voit un spectacle très réussi dans la nef du Grand Palais, on s'en rappelle toute sa vie. Des spectacles dans des salles de théâtre, dans des boîtes noires, etc., tout réussi qu'il soit, on peut en voir etc., toute l'année dans tous les théâtres de France et de Navarre. Voir un spectacle de danse, de cirque, de théâtre ou un cabaret dans la nef du Grand Palais, accompagner, ce que je disais tout à l'heure, la tombée du jour jusqu'à la nuit dans cet espace, et de voir comment il se transforme aussi et comment du coup il transforme le spectacle lui-même, je pense que c'est des expériences assez uniques. Enfin, moi, comme programmateur, par exemple, chaque jour, chaque fois que je viens dans la nef, encore ce matin, je la redécouvre autrement, selon la lumière, selon les nuages, selon la chaleur, etc. Et je ne peux pas m'empêcher tous les jours, quotidiennement, d'être ébloui par cet espace inouï. Inouï est très beau et très doux et très hospitalier en même temps. On sent qu'il est habité par une âme, vous en avez parlé tout à l'heure, il est habité par une histoire énorme, il a vu passer énormément de choses, y compris des guerres, etc. Mais, je ne sais pas, c'est une sorte de havre de paix, comme ça, surdimensionné, immense, mais hospitalier et chaleureux.
On va retourner immédiatement au Grand Palais, plus précisément pile sous son immense coupole. Alors, pour vous dire ce qui vous attend si vous choisissez de vous diriger vers cet immense bâtiment construit en 1900, vous avez du théâtre, on l'a cité, vous avez également de la danse, vous avez une symphonie pour 11 batteries menée par Lucien Antunes et 11 batteurs amateurs. Vous avez le ballet de l'Opéra National du Rhin, une soirée méditerranée, bref, beaucoup, beaucoup de choses. Et comme l'a précisé Christophe Lemaire tout à l'heure, tout ça se terminera par une grande soirée réunissant Eddy de Préto et de la danse Maude Le Pladec. Alors, je vous l'ai promis, on retourne sous la voûte du Grand Palais et on y est avec Christophe Lemaire qui assure la programmation du festival Grand Palais l'été, je vais y arriver, qui fête sa deuxième année. Après une période d'incertitude, après 4 ans de travaux, est-ce que vous estimez, vous, que ce lieu a retrouvé son âme, une âme un peu hybride entre les expositions qu'il abrite, un certain nombre d'événements? On est passé aussi par un événement qui s'appelait Monumenta, dans lequel on abritait des expositions immenses. Est-ce que, après s'être recherché, vous avez l'impression que le Grand Palais s'est retrouvé?
En tout cas, il s'est retrouvé clairement en termes de notoriété et de fréquentation. La fréquentation des expositions du Grand Palais d'été, l'attrait pour cet espace est inouï. Mais ça, je pense que c'est lié vraiment à la volonté et à la vision, même, je dirais, du président Didier Fusillé. Parce que faut pas oublier que le Grand Palais d'été, ça naît de sa vision à lui. De la même façon que l'utilisation de l'ensemble des galeries autour, avec des expositions immenses, historiques ou complètement novatrices. Parce que aussi, dans le travail qui est fait sur la programmation des arts plastique, il y a cette double dimension. À la fois faire des choses à faire découvrir aux nouvelles générations des jeunes artistes et des valeurs sûres et des blockbusters, comme on dit dans la profession. Donc je pense qu'effectivement, le Grand Palais a retrouvé depuis sa réouverture, depuis 2 ans même, parce qu'il a fallu un peu de temps après les Jeux Olympiques, une forme de vitalité absolue. C'est plus un ancien bâtiment maintenant, c'est une très jeune grand-mère, ou je ne sais pas comment la qualifier, mais en tout cas, c'est un bâtiment qui vibre et qui vit toute l'année.
Christophe Lemaire, une dernière question avant d'être responsable de la programmation ici au Grand Palais d'été. Vous avez été co-responsable de la programmation au Théâtre de la Ville pendant 16-17 ans, ça 16 ans. Le Théâtre de la Ville, c'est un lieu aussi historique, un lieu qui a été restauré de fond en comble à l'issue de 7 ans de travaux. Là, vous arrivez dans un lieu qui est aussi chargé d'histoire. Le spectacle vivant, quel est le rapport qu'il peut avoir ou qu'il ne doit pas avoir avec les lieux? Est-ce que c'est toujours délicat de ne pas se faire bouffer par un lieu?
Le Théâtre de la Ville, bon, d'abord c'est une des plus belles scènes parisiennes, si ce n'est française, si ce n'est du monde, de par sa dimension, de par son gradin de 1000 places, de par le rapport entre la scène et la salle, mais ça reste un théâtre. Je veux dire par là que c'est une boîte noire, c'est un espace neutre dans lequel on peut inscrire à peu près n'importe quelle esthétique, n'importe quel décor, n'importe quelle scénographie. Et c'est ça qui en fait la beauté aussi. Ici, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on est dans un autre rapport à l'art, parce qu'on est obligé de dire aux artistes, et on est obligé de choisir des artistes qui vont jouer ce jeu-là, de dire, vous ne pourrez jamais faire abstraction, vous ne serez jamais plus fort que la nef du Grand Palais. Elle sera toujours là, elle sera au-dessus des spectateurs, elle sera en face des spectateurs, elle sera tout autour de vous. Donc comment est-ce que, à travers des œuvres, et des œuvres qui existent, ou parfois des œuvres qui sont créées d'ailleurs pour l'occasion, comme c'était le cas de Circa qu'on a eu la semaine dernière, comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on s'empare de tout ça? Comment est-ce qu'on embrasse tout ça? Ça peut être très intimidant, d'une certaine façon, pour des artistes, de dire « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire là ?» Mais en même temps, je vois bien, avec toutes les visites qu'on fait de repérage avec des artistes venus du monde entier, que c'est immédiatement séduisant. Je n'ai pas rencontré un artiste qu'on amène dans la nef du Grand Palais, même si au départ, ils disent « Ah, mais il fait jour, il n'y a pas de synthé, il n'y a pas de technique. » À partir du moment où il arrive ici, forcément, son imaginaire se met en branle et il imagine tout de suite des tas de choses qu'il pourrait faire ici. Et c'est ça la beauté de la chose. C'est un lieu qui vient dialoguer avec les artistes. Un théâtre, en gros, ne dialogue pas, une scène de théâtre, je veux dire, au sens classique, dialogue pas avec les artistes. On leur propose un outil de travail dans lequel ils pourront s'inscrire et inscrire à peu près tout ce qu'ils veulent, dans les limites techniques ou budgétaires. Ici, c'est une chose différente. Ici, il faut inventer quelque chose de sur mesure. Il faut inventer comme de la haute couture. Il faut se dire, voilà, j'arrive dans ce lieu, je peux pas en faire abstraction, il y a cette verrière, il y a ce balcon, il y a cette chose. Comment j'embrasse ça, comment je prends ça près de moi et comment j'arrive à porter mon art à l'intérieur de ce lieu.
Christophe Lemaire, merci.
Je vous en prie. Thank you.
Fin de ce numéro 31 de Radio Scénique, votre émission traitant des arts de la scène sur Allegre FM 93.1. Merci à nos invités, merci à Marie-Laure Boggio et Valérie Decobert, deux des comédiennes de 7 minutes comité d'usine. Une pièce que nous n'avons pas encore pu voir, mais dont nous avons lu le texte. Et rien qu'à les entendre, ça nous donne envie de nous rendre du 11 au 28 juin, voir cette mise en scène d'Olivier Mellor au théâtre de l'Épée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes. Merci à Christophe Lemaire qui assure la programmation du Festival Grand Palais d'été 2026. C'est comme d'habitude Pierre Demkov qui a signé la programmation musicale et qui m'a aidé dans la préparation de cette émission. Merci à lui. Un grand merci renouvelé aussi à notre fidèle technicien qui a œuvré aujourd'hui. Merci donc à Enrico Mastro Giovanni qui a assuré la réalisation technique, mais également à Anatole Pain qui était à la régie. Enfin, un immense merci au moment. Le moment qui nous héberge dans ces superbes locaux et qui permet à Allegre FM de travailler dans les meilleures conditions. Le compliment est sincère. Si vous voulez connaître la liste des morceaux programmés ou tout simplement réécouter notre émission de ce jour, c'est sur allegrefm.org, rubrique podcast émission Radio Scénique. On se retrouve dans 2 semaines. Rappelons que Radio Scénique est diffusée les 2e et 4e lundi du mois. En attendant de se retrouver, allez dans les salles voir du théâtre, c'est là qu'est la vie.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.